Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les premières années de vie sont une période déterminante pour le développement d'une bonne santé mentale. La santé mentale a une incidence sur notre façon de penser, nos sentiments et notre comportement. C'est pourquoi il est tout aussi important de sa santé mentale que de sa santé physique. Un parent peut détecter des changements d'humeur et de comportement qui pourraient être le signe d'un trouble mental chez son enfant. Si vous constatez que les changements d'humeur et de comportement de votre enfant persistent ou qu'ils sont de plus en plus intenses, une évaluation par un professionnel pourrait être nécessaire. Dans la première partie de ce numéro de Santé pour tous, il sera question des difficultés invalidantes chez nos enfants. Et pour en parler, nous serons en compagnie d'un psychopédagogue. Et dans la deuxième partie de ce numéro de santé, on s'intéressera aux différents types de paresse chez les enfants au point de vue de la morphopsychologie. En règle générale, les enfants sont actifs et c'est précisément pour cette raison qu'il est peu courant de rencontrer des enfants paresseux. Néanmoins, quand cela arrive, il est nécessaire de chercher les causes de ce comportement. Et pour répondre à nos questions concernant tous ces différents types de paresse chez l'enfant, nous serons en compagnie d'un morphopsychologue. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Hello docteur, Bobo, maladie spécifique infantile chez les nourrissons, les bébés et jeunes enfants, des conseils de santé pour prévenir et traiter les maladies les plus fréquentes chez l'enfant.
Monsieur Kofi Tanojoachin, bonjour. Vous êtes psychopédagogue, rééducateur psychomoteur. Nous parlons aujourd'hui de difficultés invalidantes. Est-ce un sujet qui touche nos enfants?
Nous sommes dans un pays vraiment exposé à beaucoup de problèmes, problèmes de santé surtout, parce que nous sommes dans un pays endémique parlant du palu. Donc, on a beaucoup de fièvre. Et la fièvre expose les enfants à ce genre de difficultés parce que quand un enfant sort d'un palu, c'est pas facile. Et les palus sont souvent difficiles à gérer.
Cela veut dire que les difficultés mentales invalidantes résultent d'autres maladies puisque vous parlez du palu.
Tout à fait. Les difficultés mentales invalidantes sont les conséquences de différentes maladies qui affectent le système nerveux. Ce sont des maladies telles que les neuropalus, telles que la méningite, telles que la fièvre typhoïde, des maladies donc qui sont accompagnées de fièvre et cette fièvre-là perturbe énormément le mental de l'enfant.
À quoi reconnaît-on ces différents types de difficultés mentales?
Je pourrais citer un exemple simplement d'un enfant qui n'arrive pas à marcher. Ce n'est pas la polio, l'enfant n'arrive pas à marcher. Vous allez chez un spécialiste, il va diagnostiquer aussitôt. Et quand il va vous poser des questions, vous saurez que cet enfant, à la suite par exemple d'un neuropalu, a du mal à marcher, a du mal à trouver son équilibre. Ou bien je prends le cas d'un retard psychomoteur pour un enfant qui ne fait pas les quatre pattes par exemple. Déjà, à ce stade-là, l'enfant a été fortement perturbé et si l'enfant, dans sa perturbation, a une inflammation au niveau du cerveau, eh bien, l'enfant peut donc accuser un retard psychomoteur. En résumé, c'est pour dire que toute maladie qui affecte le cerveau de l'enfant peut, par conséquent, entraîner des difficultés mentales.
Docteur, parlez-nous de ces différents types de difficultés-là.
Et je vais les citer. C'est pas tellement exhaustif. Je parlais tout à l'heure du retard psychomoteur. C'est vraiment des enfants qui n'arrivent pas, même pas à s'asseoir, peut-être même à se latéraliser, c'est-à-dire tourner à droite, tourner à gauche, un bébé qui n'arrive pas à tourner et le temps passe, ou qui n'arrive pas à s'asseoir et le temps passe, il va faire un an, deux ans, il ne s'assoit pas quand même. Un enfant qui n'arrive pas à faire les quatre pattes alors qu'il a l'âge de marcher, ça sort de l'ordinaire. Un enfant qui n'arrive pas à marcher alors qu'il a peut-être quatre ans, ça sort de l'ordinaire. Et là, ça peut vraiment attirer l'attention des uns des autres. On a des enfants qui accusent un retard de langage. On a des enfants qui ne parlent pas, ils ont deux ans, ils ont 3 ans, 4 ans, et ça doit interpeller. On a des enfants qui n'arrivent pas, même s'ils parlent, même c'est des mots-phrases. C'est ce que nous appelons le trouble du langage. Et ça doit interpeller les parents. Nous avons aussi des enfants qui n'arrivent pas à parler. La plupart du temps, les parents ne savent même pas que cet enfant entend bien. Ils se disent que c'est un enfant qui attend, mais ça va venir, il va finir par parler. Et bien, quand ils arrivent chez nous, on constate que l'enfant n'entend pas bien, parfaitement. Et ça, quand on le sait, parce qu'un enfant qui n'a pas entendu ou qui n'entend pas, il ne peut pas apprendre à parler. Voilà, ce qui fait que l'enfant traîne longtemps. Nous avons des cas de troubles cognitifs. Ce sont des enfants qui n'arrivent pas vraiment à étudier. hein, qui n'arrivent pas à apprendre. Ils sont au CP1 trois fois. On les fait bouger au CP2 parce que, bon, écoute, il faut qu'ils suivent un peu l'âge physique. CP2, il peut rester là trois années du suivant successivement. Donc, ça doit interpeller les parents parce que cet enfant-là, il a un problème. Et en fin de compte, je peux dire que on dit difficulté mentale invalidante parce que très, très souvent, c'est le cerveau qui a été affecté. Le cerveau très souvent est affecté par la fièvre, beaucoup de fièvre, qui perturbe énormément le cerveau. Ce qui fait que, des fois même, on peut aller encore plus en profondeur pour trouver des lésions au niveau cérébral, des inflammations au niveau cérébral. Et donc, on fait très très souvent, nous, on fait des scanners pour situer la zone de l'inflammation, situer la lésion, pour ensuite parvenir à donner des soins à l'enfant.
Alors là, on aborde le chapitre de la prise en charge. Qu'est-ce que vous faites justement? Quel est le traitement? Quelle prise en charge pour ceux que vous recevez?
La plupart du temps, quand nous recevons les parents, nous sommes obligés de situer, de diagnostiquer et ainsi d'orienter les parents. Dans un premier temps, on doit s'assurer que ces parents ont rencontré un médecin, un neurologue, soit un pédopsychiatre, soit un psychiatre, hein, qui a donné un traitement ou bien un bulletin. Alors, si les parents ont reçu un bulletin, ils vont aller faire les examens paracliniques pour que ce dont on suspecte soit vraiment avéré avant de lui donner un traitement, soit des antiépileptiques ou un oxygénateur. En fait, de quoi calmer, sinon guérir les lésions ou bien les inflammations, voilà.
Mais est-ce qu'on parvient souvent à une prise en charge totale?
Il peut y avoir absence totale. Pourquoi? Parce que l'enfant est déjà guéri. Alors, il ne reste plus que la partie prise en charge clinique. C'est nous recevons l'enfant dans les secteurs d'activité pour la rééducation. Conditionner l'enfant pour une rééducation clinique, je peux dire de 3 à 6 mois, de 6 à 1 an, de 6 mois à 1 an, ça dépend de l'acuité du problème de l'enfant.
C'est alors un traitement évolutif, docteur?
Oui.
Peut-on avoir quelques cas?
On a beaucoup de cas. Je prends l'exemple d'un petit garçon qui nous est venu au bout de 6 mois. Donc, il avait un tout petit peu un retard psychomoteur. Il n'arrive pas à marcher, mais quand il attrapait des objets, il se levait, mais il restait comme ça. Alors, quand on a reçu cet enfant, j'ai demandé aux parents d'aller rencontrer le neurologue. Celui-ci leur a donné de faire l'EEG, l'électroencéphalogramme. Ils ont fait l'électroencéphalogramme et on s'est rendu compte que l'enfant avait une souffrance cérébrale. Et on a donné les médicaments appropriés. Et cela, l'enfant a conduit ça sur 6 mois environ. Et pendant que nous faisions la rééducation psychomotrice. Et donc, cet enfant a fini par marcher et tout. Alors, bon, il a marché certes, mais il ne parlait pas. Donc, maintenant, son programme de la marche est terminé. On a attaqué maintenant le programme du langage. Chaque mois, on fait des bilans, une évaluation pour voir un peu ce qu'il nous reste encore à faire.
Est-ce qu'il peut arriver que des enfants soient irrécupérables? Et à quel moment?
Bon, quand on parle d'irrécupérable, moi, je trouve que on améliore au fur et à mesure, parce que un enfant est toujours en devenir, est toujours en train d'évoluer, de grandir. Et donc, si rien n'est fait, effectivement, l'enfant ira se contorsionner pour les cas de troubles psychomoteurs. C'est les cas les plus graves. Les grabataires, c'est ceux qui ne marchent pas. Bon, il faut forcément qu'ils aient un traitement. Même si on ne voit pas l'évolution, ça entretient pour que l'enfant ne régresse pas. D'aucuns parleraient d'irrécupérables, non. Mais cet enfant, il finit par être conscient de tout ce qui est autour de lui. Il finit par adhérer, il finit par sourire, il finit pas, je pourrais dire, participer à ce qui se fait autour de lui.
Monsieur Kofi Tano-Joachin, quels seront vos conseils pour les parents à l'écoute de ce magazine?
Le conseil que je peux donner aux parents, ce que je donne d'ailleurs partout, c'est qu'ils veillent à ce que les enfants n'aient pas de fièvre pendant longtemps. Parce que la fièvre, pour nous, que ce soit dans le cas de palu, néropalu ou de n'importe quelle maladie, est très dangereuse. La fièvre est vraiment très dangereuse pour le système nerveux des enfants. Donc, il faut veiller à ce que l'enfant n'ait pas de fièvre. Et quand il y a un enfant qui devrait marcher et que le temps arrive qu'il ne marche pas, ou bien qu'il ne passe pas, peu importe le stade, qu'il n'arrive pas à marcher ou bien il n'arrive pas à s'asseoir, ou il n'arrive pas à faire quoi que ce soit, qu'il prenne conseil auprès des spécialistes. Parce que il n'y a pas de hasard.
Le sujet est sensible. En effet, les troubles décrits n'existent pas quant à l'agitation, l'agressivité, la colère de l'enfant sont des comportements isolés, transitoires ou en réaction à un événement. Ils peuvent aussi faire partie d'une phase normale de maturation de l'enfant.
Hello docteur, parle des maladies qui touchent les enfants de A à Z. Sur Radio de la Paix.
Deuxième partie de ce numéro de Santé pour tous, et il est question des différents types de paresse chez les enfants au point de vue de la morphopsychologie. Nous verrons dans cette deuxième partie de santé quelques-uns des aspects qui favorisent l'apparition de l'apathie ou de la paresse. Et nous sommes avec le docteur Iriebi Apollinaire. Docteur, bonjour. La paresse, telle qu'on l'entend, ou au point de vue de la morphopsychologie, qu'est-ce que c'est?
La paresse, c'est le fait pour un enfant de refuser d'être actif. Il manque de volonté de faire quelque chose. Il faut dire que la paresse est l'un des défauts dont on accuse le plus souvent l'enfant en âge d'aller à l'école ou même déjà qui est déjà scolarisé. Cependant, l'enfant paresse à l'état pur est très rare. C'est pourquoi il faut toujours chercher la cause profonde de la paresse.
Cela veut dire qu'il y a plusieurs types de paresse.
D'abord, il y a la paresse d'origine involontaire et la paresse qui est d'origine volontaire. La paresse d'origine involontaire est une paresse qui a pour origine la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement même de l'organisme de l'homme. Généralement, c'est une paresse qui est due au fait que l'enfant souffre d'un certain nombre de maladies dans son corps, dans sa chair, et que malheureusement les parents ne savent pas. Quand il le voit, il pense que c'est parce que l'enfant ne veut rien faire, il ne veut pas faire de mouvement, il ne veut pas être actif comme les autres. Or, en fait, c'est parce que l'enfant a un problème de santé. Donc, c'est pour ça que je parle de problème de physiologie. C'est ça, il y a même de la physiopathologie pratiquement. Par exemple, quand l'enfant souffre de végétation, les végétations, d'une manière générale, privent l'enfant de la moitié d'oxygène nécessaire à l'entretien d'une vitalité normale.
Quels pourraient donc être ces différents blocages à l'épanouissement de l'enfant? Quelles sont les causes?
Je dis que les causes qui provoquent l'apparence de la paresse sont nombreuses. Il y a les causes qui sont volontaires et il y a des causes involontaires. Les causes involontaires sont d'origine physiologique et psychique. Quand on prend par exemple les causes involontaires qui sont d'origine physiologique, ce sont des causes qui sont très très souvent dues à des problèmes de santé. Par exemple, l'enfant peut souffrir de végétation. Et là, cela peut facilement échapper à la connaissance des parents parce que la végétation prive l'enfant de la moitié d'oxygène nécessaire à l'entretien d'une vitalité normale. Et ça, si les parents n'ont pas compris très tôt pour recourir à un médecin, ils ne sauront pas que l'enfant est malade, c'est pourquoi il n'est pas actif. L'enfant, par exemple, peut être asthénique. Ça veut dire que l'enfant il est fatigué à tout moment. Une asthénie, c'est la fatigue. L'enfant peut être asthénique. Quand tu le vois, c'est un enfant qui est là et qui est en train de souffrir, par exemple, d'une tension artérielle basse et qui, généralement, est pauvre en sucre sanguin. Et quand c'est comme ça, l'enfant, il est très faible, il n'agit pas comme les autres, il n'est pas actif comme les autres, il n'a pas assez d'énergie. Et ça, ce sont des cas légion. L'enfant même peut souffrir simplement de la myopie. Il est là à l'école. Il regarde, il n'arrive pas à lire ce qu'il doit lire. Et il ne peut pas aussi dire aux parents que je n'arrive pas à lire ce que je vois. Sinon, ce que je suis en train de regarder. Et là, l'enfant ne fait pas d'effort, par exemple, dans le domaine intellectuel. On va dire qu'il est paresseux ou il n'est pas paresseux, mais il est en train de souffrir dans sa chair. Il n'a pas la capacité peut-être de dire ça à ses parents. L'enfant même peut être en train de souffrir d'une acalose. C'est une mystérieuse maladie qui entrave l'élan matinal de l'enfant. Ça fait que l'enfant, pour se lever le matin, c'est tout un problème. Or, ce sont des maladies qu'on peut traiter en quelques jours et puis c'est fini. L'enfant peut souffrir de tout un tas de maladies. Il y en a beaucoup. Hein. Ça peut même souffrir d'une tuberculose latente. Le petit, il a la tuberculose en lui, mais tu ne le sais pas. Ça encombre sa respiration, donc il n'est pas fort. Du point de vue vitalité, il n'est pas fort et il est là. Vous pensez que c'est parce qu'il n'a pas envie de faire quelque chose. Il veut bien faire comme les autres. Il peut être actif comme les autres, mais physiquement, il est diminué. Et d'ailleurs, même, il y a des cas de paresse, par exemple, qui sont dus à la scolarisation même de l'enfant. Un enfant qui a l'habitude de s'amuser au dehors bien et puis un jour, il se retrouve entre quatre murs pendant des heures. Il y a un changement brutal auquel il doit s'accommoder. Et quand c'est comme ça, on le prépare psychologiquement pour qu'il comprenne que c'est un ouvrage auquel il aura besoin de s'adapter.
Est-ce qu'en dehors des causes physiologiques, il existerait d'autres causes qui pourraient entraîner la paresse involontaire chez les enfants?
Bien sûr, il y a des causes psychiques. que nous ne devons pas oublier, c'est le cas où certains enfants qui sont capables d'être actifs sont découragés par le milieu où ils vivent et par l'atmosphère morale qu'ils respirent. Il y a la trop grande sévérité aussi des parents dont les enfants sont toujours victimes, qui les empêche de se mettre aussi à l'aide, d'être aussi actifs comme les enfants, les autres enfants. Il y a aussi le mauvais exemple même que certains parents donnent, qui sont là sous les yeux des enfants, qui font que l'enfant, parfois, il est découragé, il n'a même pas envie d'entreprendre quelque chose. Et puis, il y a aussi le fait que l'enfant est accaparé très tôt par quelques initiations sexuelles précoces. Une petite fille qui a des relations précoces, il est très difficile qu'elle ne pourra jamais se retrouver. Et puis, cela peut créer des chocs en psychique. Et puis, il y a le cas où l'enfant même est un souffre-douleur à l'école. Par exemple, parmi ses camarades qui le font souffrir, ce qui fait que l'enfant n'éprouve aucun intérêt pour une étude, ça lui donne le dégoût complètement de l'école. Donc, je crois que ce sont ces choses-là qu'il ne faut pas négliger et auxquelles les parents doivent faire attention. Si vous voyez que votre enfant, il est très actif, mais quand il s'agit d'aller à l'école, il est amorphe, il n'a plus envie de faire quelque chose, il devient apathique. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'école là-bas. Est-ce que là-bas, il n'est pas victime de la violence de ses camarades? Est-ce que ce n'est pas un souffre-douleur à l'école là-bas? Ou bien ce petit garçon, ou bien cette petite fille-là, est-ce qu'elle n'est pas victime d'une certaine initiation sexuelle très précoce? Tout ça sont des choses qu'il faut scruter, qu'on puisse savoir très tôt de quoi l'enfant souffre.
Docteur, vos conseils concernant ce type d'enfant?
Si j'ai des conseils à donner aux parents, désormais s'ils se rendent compte du fait que leur enfant a une conduite qui est complètement contraire au commun des enfants, c'est-à-dire qu'un enfant qui refuse d'être actif, qui refuse même de s'amuser, il est là toujours assis calme, il faut qu'ils comprennent que cet enfant, dans sa chair, est en train de souffrir d'une maladie qui l'empêche de se mouvoir comme les autres et chercher à se mettre en contact avec les spécialistes. Les psychologues sont là, les morphopsychologues qui connaissent les différents types d'enfants sont là et les médecins aussi sont là. Il faut recourir à eux.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Souvent, l'apparition de la paresse peut être l'indication d'un problème de fond plus important. Ce problème peut entraîner l'isolement et la cessation de l'activité de votre enfant avec d'autres. Dans d'autres cas, l'apparition de la paresse peut être due à une chose aussi simple qu'un changement d'intérêt de l'enfant. Peut-être qu'il montre aujourd'hui de l'apathie pour certaines activités parce qu'elles ne plaisent plus tout simplement. Il est essentiel que les parents offrent aux enfants une certaine routine et une stabilité. Ainsi, l'enfant ne développera pas à terme d'autres problèmes de comportements plus graves.
Santé pour tous. Santé pour tous.
Le principal trouble du comportement de l'enfant reste le déficit de l'attention accompagné d'hyperactivité, d'hyperkinésie et d'instabilité psychomotrice. Les troubles oppositionnels avec provocation concernent des enfants désobéissants, provocateurs, colériques, en opposition permanente avec les ordres et les règles. Les troubles de la conduite incluent l'agressivité physique, la destruction de biens et de matériel, le vol par exemple. Avec M. Kofi Tano Joachin, psychopédagogue, rééducateur, psychomoteur, nous parlions de difficultés invalidantes chez les enfants dans la première partie. Dans la seconde partie, il était question de la paresse telle qu'on l'entend ou au point de vue de la morphopsychologie avec le docteur Irie Biapolinaire, morphopsychologue. Les parents doivent être attentifs à un quelconque changement chez leurs enfants. Une fois qu'apparaît un changement de comportement, il est essentiel de chercher la raison de celle-ci. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.